sur l'antenne de Radio Ondaine. C'est également ici à la journée des droits sociaux, c'est à la Ricamari, c'est place Raspail, c'est sur le parvis de la médiathèque de la Ricamari. Et c'est le dernier rendez-vous de cette journée donc dédiée au territoire zéro non recours. C'est le dispositif qui a fait naître ce rendez-vous. C'est d'ailleurs la deuxième édition de cette journée des droits sociaux. Et on le rappelle, c'est jusqu'à 17h ce soir où un certain nombre de structures sont ici à la disposition des habitants, des citoyens qui souhaitent avoir des renseignements de l'ordre de l'habitat, de la défense des droits, de l'accès aux droits. Et cette dernière discussion de la journée pour l'antenne de Radio Ondaine, ce sera autour de la santé et de l'autonomie, le pôle santé-autonomie, parce que c'est divisé en pôles cette journée-là. Cette journée-là, elle se conclut avec trois invités. Pauline Simon, travailleur social à la maison Loire Autonomie, on expliquera ce que c'est. Il y aura également Emmanuelle Nicolin, médiatrice santé à Ezio Santé. Et puis Ombeline Fayard, doctorante à l'Escale des Aidants. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Alors, on profite de ce bonjour collégial pour vous donner la parole à chacune à votre tour pour présenter finalement la structure que vous représentez. On commence peut-être avec vous, Emmanuelle Nicolin.
Alors, rebonjour, moi je suis médiatrice santé pour Aezio Santé sur le territoire de la Ricamari et du Chambon-Feugerolles. C'est un dispositif qui est en place sur la Ricamari depuis 2016. Il a pour but de lever les freins d'accès aux soins et aux droits santé des habitants. Donc j'interviens sur le territoire petit de la ville. Donc la Ricamari est largement couvert par la politique de la ville. J'ai des permanences à la Mariada, qui est le pôle de service, donc tous les lundis et les mardis. Donc sur rendez-vous, les personnes peuvent venir me voir et je peux les aider dans tout ce qui est démarches administratives liées à la santé, aussi bien avec l'assurance maladie, la mutualité sociale agricole, mais aussi les aider dans la complétude de leur dossier MDPH, et aussi travailler tout ce qui est accès aux soins, mais ce qui est plus compliqué avec le manque de praticiens qui est de plus en plus grandissant sur le territoire.
Bon, voilà déjà un premier sujet et une première ouverture posée. Si l'on va du côté de la Maison Loire Autonomie, c'est une structure départementale, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc moi, Pauline Simon, je suis travailleur social autonomie et je suis à la Maison Loire Autonomie, qui est un service du département qui a en charge l'évaluation de la dépendance des personnes de plus de 60 ans, qui font une demande du coup d'allocation personnalisée d'autonomie. Donc on se déplace à domicile auprès de ces personnes pour évaluer leurs conditions de vie et leur proposer un plan d'aide adapté pour les maintenir à la maison.
Et pour poursuivre ce tour de table, l'Escale des Aidants, alors Ombeline Fayard, vous êtes doctorante.
Oui, bonjour. Donc Ombeline Fayard, je suis doctorante à l'Escale des Aidants, qui est un dispositif porté par l'association Danae Care. Donc l'Escale des Aidants, c'est un guichet unique de l'aidance, c'est-à-dire qu'on accueille à peu près tous les aidants transpathologiques, tout enjeu, tout âge, pour leur proposer un bilan social, donc rencontrer nos assistantes sociales pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les soulager dans leur situation d'aidance, et leur proposer aussi un soutien psychologique, des groupes d'échange et les réorienter vers ce qui existe sur le territoire.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un aidant ?
Donc un aidant, c'est quelqu'un qui prend soin d'un proche pour des raisons de santé. Ça peut être un handicap, une maladie, ça peut être aussi en cas d'addiction. Et c'est un proche qui l'aide pour tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Donc on peut être sur la toilette, on peut être sur faire les courses, l'accompagner aux rendez-vous médicaux, mais ça peut être aussi du soutien moral, donc appeler son proche tous les jours, l'aider à surmonter des épreuves, etc.
Alors ici, on parle vraiment de liens familiaux ou au moins de liens proches entre plusieurs personnes. À l'inverse, peut-être de ce qui est la mission de la Maison Loire Autonomie, où là, cette fois-ci, c'est trouver des aides, entre guillemets, extérieures au cercle familial pour maintenir à domicile une personne vieillissante.
Oui, en fait, on essaie aussi de pouvoir proposer un relais professionnel, justement, pour que tout ne repose pas sur la solidarité familiale qui arrive régulièrement à des situations d'épuisement où on peut orienter aussi sur l'Escale des Aidants pour trouver des solutions pour ces personnes-là. Mais l'idée, en tout cas, c'est de mettre à disposition une aide financière publique pour justement compenser tout ça.
Alors, cette aide financière publique, elle se traduit comment dans la mise en place de choses et d'autres? C'est quoi? C'est de l'humain qui vient? C'est de l'aménagement de domicile? Dans quel champ d'activité vous intervenez?
Alors justement, ça peut être multiple en fait. Hein. Ça peut être effectivement de l'aide humaine où là, on accorde des financements pour faire venir une auxiliaire de vie ou une aide à domicile chez les personnes, ou aussi financer de l'emploi direct quand c'est des familles qui justement apportent de l'aide à un proche. Ça peut être de l'aide au financement de portage de repas, de téléalarme. Ça peut être des transformations de baignoire en douche quand il faut aménager, mettre des montes-escaliers. Voilà, on peut arriver à toucher plusieurs domaines en fonction de chaque situation et des besoins des personnes.
La porte d'entrée pour avoir accès à la maison Loire Autonomie, quel est le chemin à prendre?
Alors en fait, souvent les personnes passent soit par un autre service social, soit par l'hôpital, et on les oriente sur un dossier d'APA, donc d'allocation personnalisée d'autonomie, ou alors c'est des personnes qui se déplacent voilà, directement dans les services du département ou dans les CCAS et qu'on oriente vers notre maison départementale.
Lorsqu'une personne fait appel à vous, qu'est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ce sont les ressources? Est-ce que ce sont la condition physique de la personne? Est-ce que vous êtes en lien avec personnels, entre guillemets, soignants, médicaux, pour évaluer tout ça?
Oui, un petit peu tout. En fait, l'entrée principale, c'est l'autonomie. Quelles que soient les ressources des gens, à partir du moment où il y a une perte d'autonomie qui est évaluée, on va les aider d'une manière financière ou par conseil. Hein. Parfois, il y a des personnes qui ont juste besoin de connaître aussi les ressources du territoire. Mais quelles que soient les ressources financières des gens, il y a toujours une participation du département. Et après, effectivement, elle est plus ou moins importante en fonction de leurs ressources.
Et puis après, une fois que le dossier est constitué, ça se met en place. Ça peut passer par un ergothérapeute. Je ne sais plus.
Oui, ergothérapeute. On peut solliciter effectivement des dispositifs pour des visites d'ergothérapeute afin de conseiller sur des aménagements ou des postures à prendre quand on aide justement un proche.
Alors, effectivement, on peut lancer une action telle que celle-ci, faudrait-il encore savoir que ça existe. Et c'est peut-être là aussi le rôle d'Emmanuel Nicolas en médiation santé à Aesio Santé. Alors, pour le coup, c'est peut-être un peu éloigné, c'est peut-être pas la préoccupation directe, mais quel est votre quotidien? Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, les actions, mais concrètement, quelles sont peut-être les demandes les plus récurrentes que vous rencontrez?
Actuellement, sur le territoire, il y a énormément de, primo-arrivants. Donc, c'est aussi l'ouverture de premiers droits. Sur le territoire de la Ricamarie, on a une population qui est issue de l'Europe de l'Est. Donc, c'est aussi comment on ouvre leurs droits en fonction de leur situation administrative, est-ce qu'elles ont travaillé ou non. On va aussi avoir de plus en plus de demandes autour de la MDPH, donc de personnes qui sont porteuses de handicap, ou en tout cas qui ont des maladies qui amènent à déposer un dossier pour une aide, soit une reconnaissance très handicapée, soit une demande d'allocation adulte handicapé. Et ce travail-là, là où il est important au niveau de la médiation santé, c'est qu'on va vraiment prendre le temps d'étudier le projet de vie de la personne. Et surtout, c'est des entretiens où on va travailler sur le deuil du corps, le deuil de la vie professionnelle. Sur des premières demandes, c'est souvent ce qui est compliqué pour les personnes, c'est finalement d'entrer petit à petit dans l'acceptation. Donc on va aussi, dans ce cas-là, faire des orientations sur les points écoute psy, sur le dispositif Mon Soutien Psy, pour aller vraiment accompagner les personnes dans cette démarche-là. Donc c'est essentiellement toutes ces démarches-là qu'on va avoir au niveau du droit. Et on a énormément de demandes de personnes qui cherchent un médecin traitant. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique. Donc à partir du moment où la personne, elle maîtrise la langue, qu'elle est en capacité de faire cette démarche-là seule, ça va être de pouvoir lui redire, on n'appelle pas juste une fois tous les 9 mois, on peut essayer de se déplacer directement dans le cabinet du médecin pour voir si la professionnelle peut prendre ou non avec son dossier médical, d'élargir le périmètre, parce que en bas de porte, on n'aura pas de médecin en bas de chez soi. Doctolib, tous les professionnels ne sont pas dessus, de vraiment élargir aux pages jaunes. Donc c'est vraiment de l'accompagnement plus au niveau de la méthodologie de recherche, parce que moi depuis le début de l'année, j'ai peut-être 60 personnes qui cherchent un médecin traitant. Si j'appelle demain un médecin traitant et qu'il me dit oui, je ne saurais pas quelle personne dans les 60 prioriser. Donc c'est vraiment de les accompagner à l'autonomie avec une méthodologie pour cette recherche-là.
Alors, c'est un accompagnement à l'autonomie, c'est pas un accompagnement personnalisé.
Alors, si, l'accompagnement, il est adapté à chaque personne.
Oui, mais c'est sur la durée. Est-ce que des personnes viennent et reviennent vous voir selon la situation ou est-ce que c'est finalement ce conseil? Alors, quand je dis ponctuel, on ne va pas s'arrêter sur le mot ponctuel, mais non pas un suivi total sur plusieurs mois, quoi.
Alors, ça va vraiment dépendre des personnes. Moi, je vais répondre sur une demande. Si la personne, elle vient, par exemple, pour une demande de complémentaire santé solidaire, je vais répondre à cette demande-là. Une fois que la demande est faite, le dossier est clôturé, je n'ai pas besoin de revoir la personne. Si la personne, elle vient pour un dossier MDPH et qu'il faut 3-4 rendez-vous, elle va le faire sur plusieurs mois, parce que voilà, on va le faire sur plusieurs mois. Ça va vraiment dépendre des personnes. Puis j'ai des personnes qui vont venir me voir au mois de janvier pour une demande, qui vont revenir au mois d'avril pour une autre demande. Donc ça va vraiment être adapté à chaque situation, mais c'est pas un accompagnement qui va durer, on va dire, 6 mois renouvelable. C'est à chaque situation sa durée, sa temporalité, et c'est aussi en fonction de la temporalité des personnes. On a des personnes pour qui venir à un rendez-vous avec tous les documents, c'est quelque chose de simple. D'autres pour qui, ben, déjà venir à un rendez-vous, c'est compliqué. Il y aura peut-être 2-3 rendez-vous manqués avant d'avoir un rendez-vous honoré. Donc voilà, j'ai vraiment aussi m'adapter à la temporalité des personnes. Donc il y a pas d'accompagnement type.
Alors, la thématique un peu de cette journée, journée des droits sociaux autour du dispositif territoire zéro non recours, c'est aussi mettre en place tout un tas de dispositifs pour faciliter les interactions entre les habitants, citoyens et des structures, qu'elles soient associatives, des structures plus institutionnelles. Et tout l'enjeu est de se faire connaître. Effectivement, la Maison Loire Autonomie, c'est peut-être la plus connue parce qu'on la voit et puis qu'elle est au titre du département. Si l'on parle de l'Escale des Aidants, entité de d'Anna Ecker, c'est aussi quelque chose qui où on n'a pas forcément le premier réflexe quand on se retrouve aidant d'aller vous voir. Alors justement, comment ça évolue d'Anna Ecker, ça a quelques années quand même. Comment ça évolue depuis ces années-là? Alors peut-être vous ne pourrez pas faire l'historique, mais aujourd'hui, quel est le positionnement de l'Escale des Aidants pour être visible? Je sais qu'il y a une date le 5 juin autour des aidants d'une manière générale. Voilà, comment on arrive à appeler, à se faire connaître et puis à aider les aidants?
Il y a déjà un enjeu de sensibiliser en fait à la question de l'aidance, parce que quand on parle du terme aidant, personne ne se reconnaît, ou c'est très difficile de s'y reconnaître. Donc venir sur des journées comme ça et juste parler du terme aidant, essayer de le définir, essayer d'en parler, c'est déjà beaucoup. Et après, on a plusieurs permanences en fait sur tout le territoire de la Loire, sur plusieurs communes, pour essayer vraiment d'aller dans l'allée vert, de se rendre disponible, parce qu'en fait nous on est à l'ETRA, donc c'est aussi en dehors de Saint-Étienne. C'est plus difficile, il faut prendre la voiture. Donc en fait, là, on perd déjà beaucoup d'aidants. Donc le but de venir sur les permanences, c'est vraiment de se rendre accessible et de pouvoir en fait toucher un plus grand nombre d'aidants. Et puis oui, comme vous le disiez, le 5 juin, on organise le Festival des aidants sur la place Jean Jaurès avec plusieurs partenaires qui vont venir aussi parler de qu'est-ce qu'ils, eux, proposent pour les aidants. Donc là aussi, on est sur de la sensibilisation, de la prévention et puis sur faire connaître en fait qu'est-ce qui existe sur le territoire pour les aidants.
Alors, on touche au domaine de la santé, on touche à quelque chose qui est pour le coup très très important, et on peut aussi entendre ici et là de part des habitants qui ont engagé des démarches et qui ont abandonné des démarches parce que peut-être la barrière de la langue, peut-être la fracture numérique, peut-être aussi le fait d'être usé par le fait de remplir des dossiers, de multiplier les rendez-vous. Est-ce une idée reçue? Est-ce qu'il y a une réalité aussi de complexité à un moment donné dans vos activités? Comment on défend ces idées-là et comment on incite finalement à ne plus être résigné et quand bien même avoir une réponse négative, au moins faire la démarche? Je ne sais pas si cette question, vous pouvez y répondre.
Alors, c'est pas qu'une idée reçue, on le voit, si nos dispositifs ils sont là, en tout cas si le mien il est là, c'est bien qu'il y a cette notion de complexité. Le système français a le mérite de proposer ses droits, mais pour autant, il faut aller les demander. Pour les demander, bah, il faut les connaître, d'où bah, le grand nombre de nos recours. On a aussi bah, des personnes, des moments qui vont se rendre dans les institutions, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'allocation familiale, mais qui, pour une question de barrière de la langue, vont pas forcément comprendre en fait ce qui leur a été dit. On va peut-être croire qu'elles n'ont pas de droits, ou que si elles prétendent à ce droit, ça va bloquer d'autres choses, et finalement elles feront pas la demande. D'où l'importance ben, de pouvoir nous aussi ben, faire connaître nos dispositifs pour ben, accompagner au mieux les personnes et les renseigner au mieux sur le droit. Mais il y a une réelle difficulté aujourd'hui à demander ces droits-là. Et puis on a aussi tout un pan de la population où avec ben, un travail précaire, des salaires qui sont pas forcément très hauts, où on peut ben, malgré le fait qu'on travaille, prétendre à certaines aides. Je pense à la complémentaire santé solidaire ou à des aides financières de l'assurance maladie pour payer une complémentaire santé qui sont ben, méconnues et pour où les personnes ben, osent pas ou pensent pas qu'elles peuvent y prétendre.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne chez Maison Loire Autonomie, ou qui peut résonner ou non? Peut-être que finalement, les personnes qui vous sont adressées ou qui viennent, le viennent en connaissance de cause.
Alors après, c'est vrai que nous, on a un public qui est nécessairement déjà passé par le dépôt d'un dossier et donc en général par d'autres professionnels. Hein. C'est rarement les gens qui téléchargent même le dossier parce qu'ils en ont eu l'idée. C'est parce qu'ils ont entendu soit par de la famille qui a déjà eu des aides similaires, soit des amis, soit effectivement des services sociaux ou autres qui les orientent. Donc après, nous, on a aussi un public qui est âgé. Donc c'est vrai que vous parliez de la fracture numérique. Nous, ils ne peuvent pas déposer un dossier sur Internet, ils ne peuvent pas aller faire leur démarche sur Internet, réactiver des demandes ou autre. Et c'est aussi le souci, en tout cas, de venir les voir à domicile pour pouvoir justement leur amener aussi toutes ces informations sur ce qui existe et ce sur quoi ils peuvent prétendre.
Alors pour terminer cette discussion et terminer cette journée radio dans cette journée des droits sociaux ici à la Ricamari, qu'est-ce que vous avez proposé, qu'est-ce que vous avez entendu dans les différentes rencontres que vous avez pu avoir avec le public aujourd'hui? Vous, Emmanuel, vous êtes plus là au quotidien, donc c'est un public que vous rencontrez. Ici, c'est peut-être le fait de montrer le réseautage qu'il peut y avoir. Mais si on parle de l'escale des aidants ou encore Maison Loire Autonomie, voilà, une journée telle que celle-ci, le fait de se mettre sur la place publique, on va employer ce terme-là, mais qu'est-ce qu'il en ressort au bout de ces quelques heures passées ici à la Ricamari?
Nous, on a rencontré beaucoup de personnes qui ne savaient pas forcément qu'ils étaient aidants. Donc le fait de pouvoir discuter avec eux de la définition même des aidants et de leur parler de ce qu'on propose, et ben, on a rencontré beaucoup de personnes qui vont nous rappeler, on espère, pour se faire accompagner au mieux. Et puis c'est surtout voir qu'en fait c'est un sujet d'actualité, qu'il faut qu'on continue aussi à parler de cette thématique et à proposer des choses pour les aider à mieux vivre leur parcours d'aidance.
Pour vous, Pauline Simon, c'était de la prise de renseignement, de la curiosité, ou peut-être même des personnes sont arrivées avec de vraies questions et de vraies interrogations?
Oui, on a eu beaucoup de personnes qui venaient se renseigner sur l'avancée de leur dossier, où en était leur demande et combien de temps ça allait encore prendre, effectivement. Mais ça leur a permis au moins d'avoir une première réponse.
Bon, ben voilà. Et quant à vous, au niveau de la médiation santé, bon, vous êtes là au quotidien. Là, c'était un moyen aussi de sortir du bureau.
Alors, bah, pour le coup, j'ai aussi rencontré des personnes qui connaissaient pas le dispositif, parce que malgré tout, ben, bah, je suis pas connue de tous les habitants de la Ricamari, donc ça a permis aussi, ben, bah, de prendre contact avec de nouvelles personnes et, ben, bah, d'espérer que ça fasse aussi son chemin sur leur entourage et des prises de contact si besoin pour elles.
Et puis on espère que ces informations-là, passées sur l'antenne de Radio Ondaine, pourront aussi provoquer, pourquoi pas, chez nos auditeurs, l'envie de vous contacter. Merci Ombeline Fayard, merci Emmanuel Nicolas, merci Pauline Simon d'avoir participé à cette émission. Émission pour la seconde édition de la Journée des droits sociaux à la Ricamari. C'était la dernière de cette journée en direct sur l'antenne de Radio Ondaine. Retour à votre programmation habituelle et à bientôt. Merci à vous.